Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Et bonsoir Dominique Manouti.
Bonsoir.
Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir pour parler de votre dernier livre paru très récemment à la série Noire, un roman donc qui s'appelle Or Noir. Et avant de vous poser la première question, je vais essayer en deux, trois lignes de vous présenter, et surtout si je me trompe, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, vous êtes spécialiste, vous êtes historienne de formation, vous avez enseigné pendant longtemps l'histoire économique contemporaine à l'université, militante syndicale aussi pendant de nombreuses années, et Or Noir est, si je ne m'abuse, votre 10e roman. Et vous écrivez maintenant depuis 20 ans, puisque Sombre Sentier date de 1995.
Exactement.
Vous dites sur votre site, avant de parler d'Or Noir, vous dites une phrase qui m'a interpellée, romancière presque par désespoir. Qu'est-ce que ça sous-entend ?
Ça sous-entend que je ne suis pas du tout quelqu'un qui a rêvé toute sa vie d'écrire de la fiction. Et que j'ai commencé à écrire de la fiction parce que j'avais beaucoup de mal à trouver ma place dans la vie politique de mon pays. Politique et syndicale, disons.
Et syndicale. Et donc, depuis 20 ans, 10 fictions qui tournent quand même autour de faits réels. Donc, on va parler d'Or Noir. Et ici, vous choisissez donc de nous raconter un point crucial de l'histoire économique contemporaine, 1973. À l'insu du commun des mortels, et de moi-même d'ailleurs, quelques personnes, quelques décideurs, quelques puissances décident d'en finir avec la French Connection. Et au même moment, dans les mêmes sphères, on décide de faire flamber le cours du baril de pétrole. Alors, on va serrer les problèmes. D'abord, cette histoire, on pensait tout naïvement que c'était les flics qui avaient tout arrêté, la French Connection et tout. Pas du tout.
Non, la French Connection a été arrêtée sur ordre des Américains.
Et pour quel dessein ? Enfin, vous le décrivez un petit peu dans le livre, on peut en parler un tout petit peu.
Oui. Si vous voulez, ça a été arrêté sur ordre des Américains, en particulier de Nixon. C'est une opération de Nixon pour deux raisons. La première, qui est que pendant longtemps, l'héroïne a été considérée par les Américains comme une drogue à direction des taulards, et elle était très appréciée parce qu'elle avait la réputation de faire tenir les taulards tranquilles. Bon, assez vite quand même, c'est-à-dire dans les années 60, cette drogue a commencé à sortir des prisons et s'est répandue dans la population américaine des classes moyennes, où elle a fait des ravages. Et là, évidemment, ça a semblé quand même beaucoup moins drôle aux Américains.
Oui, c'est moralement beaucoup plus incorrect pour les Américains.
Exactement. Et puis la deuxième raison, c'est que Nixon a eu l'occasion de se brancher sur le commerce de la cocaïne et donc de récupérer au passage un peu d'argent pour financer ses services secrets personnels, qui évidemment sont des personnes qui coûtent extrêmement cher. Donc il faut trouver des moyens pas trop légaux de les financer. Et la cocaïne, c'était une très très bonne occasion. Donc c'est autour de la Floride et de Miami qu'il a commencé à avoir un certain nombre de liaisons avec la mafia locale
pour faire quelques bénéfices.
Et évidemment, si on élimine les concurrents, ça marche mieux.
Ah bah oui, c'est sûr. Donc, deuxième sujet, donc à peu près au même moment, en 73, deuxième, pour faire un raccourci, le mot n'est pas bien choisi, mais deuxième magouille économique que vous démontez, que vous décrivez très très bien, et après on va parler de la fiction, parce que ça c'est remarquable, c'est comment quelques personnes, quelques entreprises, quelques hommes politiques, enfin, y compris quelques mafieux, vont réussir à faire flamber le prix du pétrole. Alors là, il y a toute une histoire, tout un pan d'histoire qu'on ne connaît pas, finalement.
C'est-à-dire, c'est les préparatifs de ce qui va être le choc pétrolier de 73. Et moi, ce qui m'a fasciné, si vous voulez, c'est que c'est une période que j'ai vécue. Moi, je ne suis pas toute jeune. C'est donc une période que j'ai vécue. J'étais à l'époque très militante. Et on a bien vu cette décision de l'OPEP à l'automne 73 de multiplier par 4 le prix du pétrole. Et nous l'avons compris, nous à l'époque, nous les militants de gauche et d'extrême gauche, comme un pas, disons, dans la libération des peuples opprimés, on va dire. Vous voyez, ouais. Et c'est bien après que j'ai compris que c'était pas exactement ça.
Mais non.
Donc il y a à l'intérieur du roman quelqu'un qui participe à l'OPEP et qui a cette lecture, celle que nous avions, lecture militante, etc., des luttes de libération nationale. Et puis il y a un certain nombre d'hommes très liés à la banque, des aventuriers très liés à la banque, qui voient une toute autre opportunité. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant quand on comprend les choses 30, 40 ou 50 ans après, c'est, vous savez ce qu'on dit, hein, c'est au crépuscule que l'oiseau de Minerve prend son vol. On a toujours beaucoup, beaucoup de retard sur la compréhension des événements. Mais bon, quand on comprend, on se rend compte, si vous voulez, que ces aventuriers, ces hommes d'affaires ont eu le génie de comprendre ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire de la place fondamentale que le pétrole allait prendre dans la troisième révolution industrielle,
qu'on subit toujours. Et évidemment, ce roman, ça paraît assez évident, mais y a quelque chose en plus. Le roman se passe majoritairement à Marseille, sur la Côte d'Azur, entre Nice et Marseille. Marseille, un choix, je dirais, logique pour ces deux affaires, mais on sent que vous aimez cette ville.
Mais oui, bien sûr.
C'est une ville cosmopolite, un port.
J'aime beaucoup, mais j'aime comme une Parisienne. Donc j'ai eu un peu de mal à me décider à prendre le sujet et la ville. Je me suis dit que les Marseillais n'allaient pas être contents.
Ah, il y a quand même quelques belles descriptions et je trouve que Marseille est vue sous un bel angle. Alors par contre, ceux qui ne sont peut-être pas contents, c'est les Niçois. Parce que le premier meurtre a lieu devant le palais de la Méditerranée et, je vous cite, « Décor monumental d'une richesse conventionnelle et tapageuse, quelques beaux vitraux 1930, mais qui ne rachètent pas la banalité du reste. Vous n'êtes pas tendre avec le palais de la Méditerranée ?»
Non, pour moi, c'est vraiment une pièce montée. Hein.
Voilà, donc on va passer sur le palais de la Méditerranée. Donc, un homme est abattu, Maxime Pierry. Les enquêteurs n'ont que l'embarras du choix. Et parce qu'entre autres, il était ex-lieutenant d'un mafieux du clan Guérini. Hein.
Oui.
Et tous les hommes... Alors là, on voit bien les accointances entre les hommes politiques, l'économie, la mafia, tout ce qui se passe sur la Côte d'Azur. Vous démontez ça très bien, vous décrivez ça excellemment bien. Et tous veulent que... on pense que c'est un règlement entre truands.
Oui,
sauf que il y a d'aucun...
C'est plus simple, parce que si vous voulez, ce qui est quand même extrêmement... Il y en a eu beaucoup à l'époque, mais vraiment beaucoup. Et c'était vraiment des règlements au plus haut niveau, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ce qui est très impressionnant quand même, c'est qu'il y a jamais... On n'a jamais trouvé aucun des assassins. Aucun des assassins à se demander si on les cherchait. Donc, si vous voulez, attribuer ça au règlement de compte entre gangsters... c'est la même chose que de mettre le couvercle dessus, quoi.
Oui, puis ça rassure le citoyen moyen.
On noie l'affaire et puis c'est terminé, quoi.
Alors, heureusement, dans votre fiction, dans Or Noir, le flic, Daquin, c'est un opiniâtre, c'est un têtu, et lui, il va plutôt suivre une autre piste. Donc, il y a un personnage pivot, parce qu'il est au milieu de toutes ces magouilles, Michael Frix, qui est un responsable d'une compagnie de trading de matières premières, et qui est un petit peu le lien entre tout ça, et lui, il va suivre cette piste-là. C'est un peu celui qui va avoir vos yeux, en fait, Daquin.
Exactement. Qui est parisien, comme moi.
Et que vos fidèles lecteurs connaissent bien, parce que, en fait, on l'a connu dès votre premier roman, Sombre Sentier, on l'a eu dans plusieurs romans, trois, et puis, vous l'aviez abandonné. Mais je trouve que c'est pas du tout innocent que vous l'ayez choisi spécifiquement, lui, pour raconter ses débuts de flic à Marseille sur cette histoire-là.
Oui, oui, oui. Et pour préciser même, si vous voulez, j'avais une grosse, grosse documentation sur ces histoires de pétrole et de French Connection. Et je ne savais pas, je n'arrivais pas à organiser tout ça dans une fiction, dans un roman. Et c'est quand j'ai eu l'idée de reprendre Dakin que les choses se sont mises en place. Donc oui, pour moi, il a eu un rôle très important dans ce roman.
Ce qui est très intéressant dans ce flic, donc qui débute, ce Parisien qui débarque à Marseille, donc ça permet aussi de montrer un petit peu tout le côté des flics et tout ce milieu-là marseillais dans les années 70, c'est qu'il est à la fois un héros, parce qu'il est sympathique, on voit que il pourrait être complètement incorruptible, il a beaucoup d'empathie pour certaines victimes et ses copains flics, mais c'est à la fois un anti-héros parce que bon, c'est un homme tout à fait banal.
Oui, oui, et puis oui, enfin bon, oui, c'est un anti-héros aussi, absolument.
Voilà, enfin anti-héros, c'est peut-être pas bien choisi, mais disons quelqu'un de totalement ordinaire qui est pas un grand héros de roman noir. Et moi, ce qui m'a impressionné encore une fois ce que j'ai trouvé remarquable dans cette fiction, c'est d'arriver à nous raconter toutes ces histoires et vraiment en détail, parce que là on n'a pas le temps, mais il y a aussi le marché de l'art, mais il y a aussi toutes les accointances entre les hommes politiques et les petites entreprises à Marseille et tout ce qui a pu se passer entre eux, c'est d'arriver à mélanger, à voir les entrelacs de l'histoire vraie, de tas de faits réels, et puis de mélanger quelques personnages de fiction, comme ça, Dakin, les personnages qui travaillaient avec Maxime Pierry, et d'arriver... Alors, comment vous travaillez ?
Ah bah écoutez, c'est ça le point crucial du roman, c'est le moment où on trouve ces personnages de fiction. Si vous voulez, moi, je travaille, je choisis un sujet parce que j'ai envie de le traiter. Celui-là, si vous voulez, pour moi, c'était important parce que c'est justement le moment où ma génération a perdu contact avec ce qui était vraiment en train d'arriver. Et ça va nous amener directement à 80 et au triomphe du libéralisme, du néolibéralisme, au triomphe de la financiarisation extrême de l'économie. Nous ne l'avons pas vu venir. Et c'est pour ça qu'on s'est complètement planté, si vous voulez. Donc j'avais envie de retourner un petit peu là-dessus, de regarder un peu. Donc je commence par faire beaucoup de documentation. Sans vouloir trouver une histoire d'abord. Mais ensuite, si vous voulez, le moment où les choses commencent à se cristalliser, c'est quand, à partir de cette documentation, des personnages me viennent. Quand je sens vivre, voilà, je sens des gens qui se mettent à vivre, qui sont complètement le fruit de mon imagination, mais qui se mettent à vivre. C'est un processus qui n'est pas trop contrôlé. Hein. Ça se fait un peu... Et c'est quand ils sont là qu'on arrive à imaginer une histoire. Enfin, que moi, j'arrive à imaginer une histoire. Et ce quand j'ai mes personnages. Et avant, j'y arrive pas.
Et dans la narration, ce qui est très subtil et très intéressant, justement, c'est une narration. Il y a un narrateur qui raconte tout ce qui va arriver à tous ces personnages. Et quand vous vous rapprochez de Dakin, imperceptiblement, à un moment donné, la narration passe au jeu. On rentre dans la tête du personnage.
Oui.
Et ça permet vraiment de le suivre au plus près.
Oui, oui. C'est j'aime beaucoup jouer là-dessus. J'aime beaucoup jouer sur le il et le jeu.
C'est une...
Le regard extérieur et le regard intérieur.
Et c'est très habilement fait parce que le lecteur s'en aperçoit à peine au niveau du style, mais rentre complètement dans l'intimité du personnage.
Ben écoutez, ça me fait plaisir ce que vous dites parce que ça veut dire que ce que j'essaye de faire marche quelquefois.
Marche souvent. Il y a de très beaux. Alors, on sent quand même là, souvent, vos romans étaient plus dans le nord, mais là, vous vous régalez. On est dans le sud, il y a des belles recettes de cuisine et tout. Et puis, alors, j'ai trouvé des petits trucs. Il y a des noms, par exemple. À un moment donné, Maxime Pierry, il y a aussi Simon Pierry. Donc voilà, ça a été un des premiers maires Front National. Il y a un personnage qui s'appelle l'Anglais. Ça me rappelle quelque chose vis-à-vis de la CIA. Vous amusez comme ça de temps en temps ?
À l'Anglais, c'est tout à fait volontaire, absolument.
Voilà. Et puis, voilà, on arrive à la fin de notre émission. Une dernière question plus globale. Vous dites dans le site, vous dites l'histoire comme méthode de pensée et de travail. Et maintenant, par désespoir, comme on l'a dit en premier, j'ai envie de vous demander, la forme de romanesque comme méthode de travail, ça permet d'aller plus loin peut-être ?
Alors pour moi, oui, c'est plus riche que l'histoire. C'est plus riche parce que ça touche beaucoup plus les lecteurs. On s'adresse pas seulement à leur intelligence, mais à toute leur sensibilité. On les fait vivre l'histoire qu'on raconte. Elle n'est pas extérieure au lecteur, elle n'est pas devant lui, il est dedans. Si c'est réussi, évidemment, je veux dire, bon. Mais donc, je pense que c'est plus riche que l'histoire. L'histoire, si vous voulez, la démarche historique se démode beaucoup plus vite que le roman et touche moins le lecteur. Donc oui, j'ai redécouvert la puissance de la littérature.
Oui, c'est sûr. Et puis, on a besoin justement parce que je crois que ce roman... entre autres du régal de lecture, a vraiment une qualité extrême, c'est de nous donner envie de nous reposer des questions sur cette période-là, qui est en écho complète avec ce qu'on est aussi en train de vivre, parce que de toute façon, c'est une continuité, et ça peut peut-être permettre d'être un petit peu moins idiot, peut-être.
Bah, écoutez, c'est une continuité, oui, absolument, c'est le moment où ça bascule.
Et donc, on vit en 2015 complètement à cause de ces événements-là, finalement.
Oui, absolument.
Ben, Dominique Manotti, je vous remercie infiniment.
Mais donc, moi qui vous remercie.
Donc, Or Noir, c'est paru récemment, Série Noire. Donc, Série Noire, c'est chez Gallimard. Dominique Manotti, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Voilà, on va se retrouver dans notre deuxième partie d'émission pour quelques romans qui nous ont beaucoup plu. Et puis donc, à tout de suite.
On vous laisse avec les nouvelles du jour.